journal Florence Paracuelos, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. 40 morts dans deux mosquées de Nouvelle-Zélande, c'est la principale information de cette matinée. Deux attaques ont eu lieu dans la ville de Christchurch, perpétrées par au moins un extrémiste de droite. Quatre personnes arrêtées dans cette mouvance d'extrême droite. Récit et témoignage dans un instant. À la une également l'Algérie qui s'apprête à vivre un nouveau vendredi de manifestation. Nous serons à Alger. Nathalie Loiseau, ministre des Affaires européennes et candidate de la majorité aux élections du mois de mai. Elle s'est déclarée hier soir. Et lui, Nicolas, sera-t-il candidat ?
On verra bien, on lui posera la question à Raphaël Glucksmann, le fondateur du mouvement Place Publique. Il est l'invité du grand entretien de la matinale. 01 45 24 7000, les réseaux sociaux, l'application mobile France Inter.
Dans ce journal, également la proposition du grand débat qui s'achève et qui fait parler, celle d'un stage pauvreté pour les élus. La grande marche mondiale pour le climat, vous verrez qu'il n'y a pas d'âge pour se mobiliser avec une fillette de 9 ans. Et le salon du livre aux couleurs européennes cette année.
France Inter.
Un homme qui entre dans une mosquée et qui tire sur chaque personne qu'il croise. Cet homme a filmé son carnage à Christchurch en Nouvelle-Zélande. C'était l'heure de la prière du vendredi. La même scène aurait eu lieu dans une seconde mosquée. Il y a 40 morts selon un premier bilan. Il est 20h en Nouvelle-Zélande, un pays sous le choc après ces deux attaques d'une violence extrême. Voici les premiers mots de la première ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern.
Ce que je peux vous dire très clairement, c'est qu'il s'agit de l'une des plus sombres journées qu'ait vécue la Nouvelle-Zélande. Ce qui s'est passé ici est un épouvantable et sans précédent acte de violence. Plusieurs personnes ont été directement touchées par la fusillade. Et probablement des migrants tunisiens, réfugiés, qui avaient choisi de faire de la Nouvelle-Zélande leur refuge, leur maison. Ils font partie de nous.
40 morts, une vingtaine de blessés, c'est un carnage. Franck Madvon, que sait-on de ce qui s'est passé aujourd'hui à Christchurch ?
Alors, les premiers coups de feu ont retenti en début d'après-midi, heure locale. Deux mosquées ont donc été prises pour cible. L'une d'elles est située en plein centre, à Christchurch. C'est la principale mosquée de la ville. Là, des témoins décrivent un homme équipé d'un casque, d'un gilet pare-balles, d'un fusil automatique et d'une caméra, vous l'avez dit, il s'est filmé en train de tirer sur les fidèles. Une vidéo diffusée en direct sur Facebook. Facebook a depuis retiré la vidéo et fermé le compte de son auteur. C'est vendredi, jour de prière, la mosquée est alors bondée. L'un des témoins du massacre raconte ce qu'il a vécu à nos confrères du Guardian.
Il y avait un banc. Je me suis glissé dessous, la moitié de mon corps dépassé. J'ai retenu ma respiration. Et l'homme a rechargé son arme à 7 reprises. Il tirait. La mosquée est divisée en différentes sections. Il est allé dans chaque salle et a tiré sur tout le monde.
Le bilan est donc très lourd, au moins 40 morts, une vingtaine de blessés, on le rappelle. Les auteurs, les autorités, n'écartent pas la possibilité qu'il y ait plusieurs assaillants. 4 personnes ont été arrêtées. En tout cas, l'auteur ou l'un des auteurs, on le rappelle, de la tuerie est australien. C'est ce qu'a confirmé le Premier ministre australien Scott Morrison, qui parle d'un terroriste extrémiste de droite et violent. D'après plusieurs médias locaux, cet homme aurait diffusé un manifeste sur les réseaux sociaux, un long texte de 87 pages anti-immigrés, anti-musulmans.
Franck Madvon, merci. Nous reviendrons évidemment sur ces attaques en Nouvelle-Zélande dans nos prochaines éditions.
Il est 8h04, l'Algérie, Florence, à l'aube d'une nouvelle grande journée de manifestation.
Un quatrième vendredi de mobilisation contre Bouteflika, fantomatique et son clan au pouvoir depuis 20 ans. Certes, il ne briguera pas de 5e mandat, mais il est toujours là. Et personne ne sait quand aura lieu la prochaine élection présidentielle. Bonjour Saïd Séguir.
Bonjour.
Vous êtes notre envoyé spécial à Alger, Saïd. Les Algériens ont l'impression d'avoir été roulés par les annonces d'Abdelaziz Bouteflika lundi. Ils seront sans doute très nombreux dans les rues aujourd'hui.
Si ce n'est l'agitation habituelle d'une grande capitale comme Alger, les rues sont encore relativement calmes. Ce matin, c'est surtout vers 14h après la prière du vendredi que les manifestants devraient commencer à marcher. Mais l'affluence sera sans aucun doute, c'est vrai, très importante. D'abord parce que plusieurs pans de la société civile ont poursuivi depuis une semaine la mobilisation dans la rue. Les étudiants, les magistrats, les avocats, les enseignants à Alger, mais aussi à Oran et dans l'est du pays, à Constantine par exemple. Et puis la rue peut aussi se prévaloir de soutien public, crédit visible et très important symboliquement la tribune hier d'une grande figure de la révolution algérienne, Jamila Bouhired, dans les colonnes d'El Watan, a marqué les esprits à 83 ans. Elle a appelé la jeunesse, je cite, à ne pas se laisser voler sa victoire. Alors le pouvoir a tenté ces derniers jours d'éteindre la contestation depuis la lettre du président Abdelaziz Bouteflika annonçant son retrait et le report de la présidentielle. Il y a eu par exemple hier la promesse d'un futur gouvernement plus jeune avec davantage de femmes, mais dans la population, ces propositions ne suscitent guère d'intérêt. Beaucoup au contraire dénoncent le caractère anticonstitutionnel de la situation actuelle.
Et Saïd Séguir en direct d'Alger, où la place Maurice Audin sera sans doute encore noire de monde aujourd'hui. On a beaucoup dit que les Algériens n'avaient plus peur, qu'ils avaient tourné la page des années GIA. Certains les portent encore dans leur chair et ceux-là, Waïba Filali, n'osent toujours pas descendre dans la rue.
Nordine observera les manifestants du balcon de son appartement à Alger. Descendre dans la rue lui rappelle trop de souvenirs douloureux, ceux des années 90 de la décennie noire.
J'ai pris 5 balles. Si j'ai pris les 5 balles, ce n'est pas simplement par les islamistes, mais par les gens qui gouvernaient. Donc voilà, aujourd'hui, mon scepticisme, il est là. C'est pour ça que je regarde de loin.
À aujourd'hui 70 ans, ce directeur d'une maison d'édition ne se fait plus d'illusions.
C'est des gens qui s'accrochent encore. Ils savent qu'ils ont beaucoup à perdre. Aujourd'hui, ces gens-là feront tout pour être encore au pouvoir.
Autre génération, celle de Hiba, cheveux colorés en violet, 25 ans, étudiante à l'école des Beaux-Arts d'Alger. Elle suivra les manifestations sur son portable.
En même temps, j'ai pas le choix. Si j'ouvre Facebook, c'est le premier truc que je trouve. J'aime bien. Je voudrais bien être au courant de ce qui se passe. Mais après, pour participer, ça c'est autre chose. Ça c'est pas possible.
La jeune femme craint de voir son pays sombrer dans le chaos.
Soit disant, s'il part, qui sera élu à sa place? On en a aucune idée. On pourrait rentrer en guerre civile s'il n'y a pas d'entente, si personne ne veut céder la place à... On se retrouve... À la place de l'Irak ou bien de Syrie, et ça c'est assez flippant.
L'étudiante restera donc chez elle ce vendredi avec ses parents.
Un reportage signé Waïba Filali. Des bombardements à Gaza cette nuit. L'armée israélienne dit avoir attaqué une dizaine de sites du Hamas après 2 tirs de roquettes vers la région de Tel Aviv. Le Hamas qui dément être impliqué dans ces attaques. Le Brexit n'aura sans doute pas lieu le 29 mars. Les députés britanniques en ont reporté la date hier. Ils vont revoter la semaine prochaine sur l'accord de sortie déjà repoussé 2 fois. Si ça passe, le Brexit aura lieu au plus tard le 30 juin. Si ça ne passe pas, Londres demandera un report beaucoup plus long. Encore faudra-t-il que les Européens soient d'accord.
L'Europe, 8h08 et ses deux versants hier soir sur France 2.
Marine Le Pen face à Nathalie Loiseau, ministre des Affaires européennes, prête à mener la liste de la majorité aux élections du mois de mai. L'ancienne jupéiste a fini par l'annoncer à la fin du débat, Maxence Lambrecq.
Au départ, Nathalie Loiseau s'excuse presque d'être sur ce plateau et interroge Marine Le Pen en douceur.
C'est assez difficile de savoir ce que vous pensez sur l'Europe.
Il est très vite question du SMIC européen. Marine Le Pen avance un chiffre sans référentiel, alors Nathalie Loiseau s'y accroche.
36 euros pour quelle durée du SMIC en France, Madame Le Pen?
Ah, parce que vous voulez...
Bah, je sais pas, c'est 36 euros. La France est à 36 euros.
Non, mais ça change rien, Madame Loiseau.
Bah, 4,40 euros, avoir la Bulgarie. Question. Mais c'est quoi?
Je crois que la Roumanie, c'est
une journée, c'est une semaine,
50.
C'est quoi? Bah, non, bah, je sais pas, je vous pose une question, j'essaie de
honnêtement,
comprendre.
Honnêtement, arrêtez avec ça.
Marine Le Pen a finalement le dernier mot.
On va pas tout mélanger.
Les deux femmes ne cessent de s'interrompre.
Je suis pour l'élargissement.
Madame Loiseau,
la ministre arrive quand même à placer une pique ou deux.
Vous avez dû garder le FN. Vous êtes arrivé de garder le FN parce que FN, c'est fake news.
Mais à aucun moment, elle ne prend l'ascendant et la chute est assez gênante.
Bravo parce que vous avez réussi à me faire changer d'avis. Je suis entrée sur ce plateau et je vous ai dit que je n'étais pas candidate pour conduire la liste de la majorité aux élections européennes.
Marine Le Pen se moque d'elle ouvertement à l'heure où elle annonce sa candidature.
Je suis prête à être candidate. Je ne sais pas ce qu'en pensera la majorité présidentielle.
Et en effet, stupéfaction, dans la majorité hier soir, les ténors n'étaient pas au courant et certains prennent ça pour un coup de force, agacés, voire affligés, par la méthode et la prestation.
Oui, de la brutalité en politique, Valérie Pécresse instaure un violentomètre au Conseil régional d'Île-de-France, un baromètre pour évaluer les sorties de route des élus qui seront comptabilisées. Ces sorties de route sont sanctionnées. L'opposition dénonce un procédé infantilisant. Voilà qui a été réclamé ardemment pendant les réunions du grand débat qui s'achève, la réindexation des retraites sur l'inflation. Eh bien, Édouard Philippe se dit prêt à l'instant à examiner cette possibilité pour l'an prochain en particulier. particulier pour les petites retraites. Voilà maintenant une autre proposition de terrain qui fait parler, issue elle aussi du grand débat. Pour toi, pourquoi ne pas imposer des stages de pauvreté aux fonctionnaires et aux élus, trop loin de la réalité pour les citoyens en situation de précarité? C'est d'eux que vient ce projet que certains qualifient de populiste, mais qu'ils assument, Claire Chaudière, comme une piqûre de pragmatisme.
Cela fait des mois, voire des années, que cette idée de stage obligatoire de pauvreté trotte dans la tête d'Aldo Brigitte-Egui, sorti de la rue après avoir longtemps été en situation de grande précarité. La question est simple.
Comment pouvez-vous comprendre notre vie si vous la regardez depuis votre bureau?
Ils savent pas de quoi ils parlent.
On demande simplement, pour une sorte de remise à niveau humaine et professionnelle, qu'ils viennent voir de près, essayer de se laver, essayer d'aller manger, pas se faire voler ses affaires.
C'est un stage d'immersion.
Immersion de quelques jours à peine ou un peu plus,
une bonne semaine,
destiné aux travailleurs sociaux d'abord, mais aussi à de hauts fonctionnaires et même à certains élus.
Ça s'adresse aussi aux députés, mais pas à un député habillé en costume, avec les pompes bien cirées. On peut aller dans un dispensaire, récupérer des fringues, un vieux sac à dos pourri.
Parce que c'est comme ça, explique-t-il, que le regard que pose la société sur vous change.
Et on ne va pas les laisser tout seuls, ils seraient complètement perdus. On se déplace avec eux, jour et nuit. Ils ne peuvent plus faire les mêmes lois, ils ne sont plus pareils. Comprendre au fin fond de soi-même ce qui se passe. Pourquoi il y a des personnes qui partent à la dérive, populistes ou pas populistes, ce sera positif.
Un peu agacé par les réactions entendues ici et là, ces citoyens précaires et engagés demandent à ce que leurs propositions soient étudiées avec sérieux et surtout beaucoup d'humilité.
Lui n'a pas fait de stage pauvreté, mais un stage détention, si l'on peut dire. Carlos Ghosn, qui saura aujourd'hui combien Renault va le payer pour ses 11 mois de travail de 2018 avant son arrestation, probablement 1 million d'euros et une part variable qui reste à déterminer ou bien à annuler par le conseil d'administration du jour. Il n'aura pas lieu avant 2 ans, mais il s'annonce déjà comme le procès du siècle, procès des attentats du 13 novembre 2015. Comment l'organiser? Les avocats des victimes et des mises en examen étaient réunis hier à la cour d'appel de Paris pour y réfléchir avec une question centrale, Sarah Guibaudot, celle du lieu où se tiendra ce procès monstre. Il y a 1700 parties civiles dans cette affaire.
Première option, louer une salle à l'extérieur pouvant accueillir de l'ordre de 4000 personnes. Deuxième solution, aménager au sein de la cour d'appel un réseau de plusieurs salles avec retransmission vidéo. Jean Reinhardt, avocat de partie civile, préfère rester dans un lieu de justice.
Nous serions plutôt partisans que ça se passe à l'ancien palais de justice de Paris, que soit créé dans la salle des pas perdus une immense salle qui pourrait contenir au moins 500-600 personnes, qu'on puisse répercuter des images dans d'autres salles. Et on s'aperçoit qu'avec l'expérience, au bout de quelques jours, la salle de 500-600 personnes suffirait amplement.
Mais d'autres penchent pour une salle unique, comme l'avocate Valentine Jutner.
Évidemment, la salle de spectacle, c'est un lieu qui serait trop difficile pour beaucoup de parties civiles. Mais par exemple, a été évoquée la possibilité que ça se passe au Grand Palais. En tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que les moyens financiers vont être mis et que ce ne sera pas des contraintes budgétaires qui vont favoriser tel ou tel choix.
Pour la cour d'appel, il faut trancher assez vite. 2 ans ne seront pas de trop pour lancer et réaliser les aménagements. Les avocats de la défense demandent que la sécurité ne les empêche pas de parler à leurs clients s'ils sont renvoyés devant la cour d'assises spéciale.
Il est 8h13, marché pour le climat, comme les jeunes Suédois, les Allemands, les Belges depuis des semaines.
Et aujourd'hui, le mouvement sera mondial. Une centaine de pays prennent le relais de ces marches lycéennes. 200 manifestations prévues en France. À Strasbourg, une petite fille de 9 ans sera la mascotte du rassemblement. Elle s'appelle Sophia. Elle est en CM1. Elle proteste déjà tous les mercredis depuis plusieurs mois devant le Parlement de Strasbourg. Son engagement, Olivier Vogel, est parti d'un séjour à la montagne.
C'est en allant avec son père au Champ du Feu il y a 2 ans que Sophia a pris conscience du problème.
J'étais allée dans la montagne et là, il n'y avait pas de neige. J'étais venue pour luger. Du coup, j'ai demandé à mon père, mais pourquoi il n'y a pas de neige? Ben, il m'a expliqué que c'est à cause de la pollution et du réchauffement climatique. Du coup, j'étais triste et je me suis dit qu'il ne faut pas laisser la Terre en réchauffement climatique.
C'est Greta Thunberg, la jeune activiste écologiste suédoise, qui a donné envie à Sophia de descendre dans la rue.
J'ai trouvé que c'était super son action, donc je me suis dit de faire la même chose en France.
Tous les mercredis après-midi, Sophia est aux côtés de son père devant le Parlement européen, sa pancarte entre les mains, enfant pour le climat.
les adultes, les grands, en fait, vu qu'ils seront morts quand la planète elle sera vraiment polluée et réchauffée, ben, statistiquement, c'est nous les plus concernés.
Et l'idée, c'est de secouer les politiques.
En fait, j'aimerais dénoncer l'inaction du gouvernement parce qu'ils font rien pour la planète. Ils ne se rendent pas compte que leur planète, elle est en train de se réchauffer énormément. Donc, faut vraiment qu'ils fassent quelque chose.
Et cet après-midi, Sophia sera bien sûr place Kléber à Strasbourg, au milieu des jeunes pour le climat.
Parce que c'est quand même notre planète, faut en prendre soin.
Et là, et la carte mondiale des rassemblements se trouve sur franceinter.fr. Les plages de Gironde et de Charente-Maritime vont-elles être polluées par le fioul du Grande America? Deux nappes se dirigent vers la côte, pas attendues avant plusieurs jours, ce qui laissera peut-être le temps aux quatre navires anti-pollution déployés de pomper le fioul avant qu'il arrive. Pas de club français en quart de finale de la Ligue des Champions, il n'y en aura pas non plus en Ligue Europa. Rennes a été battue 3-0. Par Arsenal hier soir. Et après l'Europe du foot sans français cette année, la France accueille l'Europe des livres. Invité d'honneur du Salon du Livre qui ouvre aujourd'hui à Paris, Ilana Mor-Youssef, voilà un choix politique des organisateurs.
Le Brexit qui ne finit pas d'en finir, la montée des populismes chez plusieurs de nos voisins, tout cela n'a pas dissuadé le syndicat national de l'édition de mettre l'Europe à l'honneur du Salon du Livre. Pierre Dutilleul, directeur général du SNE.
C'est un invité d'honneur éminemment politique. C'est vraiment quelque chose que l'on a défini dès l'été dernier, puisque le salon prend place en mars, que les élections sont le 26 mai. On était à un moment absolument idéal pour mettre en avant l'Europe sous la forme d'un village européen, dans lequel seront présents également le Parlement et la Commission européenne.
La programmatrice de la scène Europe, Adélaïde Fabre, s'est efforcée de faire ressortir les enjeux de société européens.
Par exemple, sur la question des migrants, qui est une question essentielle aujourd'hui, on aura l'auteur grec Christos Christopoulos, qui viendra en parler avec une responsable de MSF et un historien. Nous voulions faire entendre des jeunes voix de la littérature européenne, mais aussi s'intéresser à des figures incontournables comme Éric de Lucas, Javier Cercas, et de les interroger sur leur rapport à l'Europe aujourd'hui et comment elle peut résonner dans leur œuvre.
Le Salon du Livre semble prendre goût à la politique. En 2021, c'est l'Italie qui sera le pays invité.
Voilà, le Salon du Livre avec des auteurs du monde entier, pas seulement européens, jusqu'au 18 mars, porte de Versailles à Paris.
Merci Florence Paracuelos.